Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Adrien Boyer qui est le directeur général de Pinterest pour la France, mais aussi l'Europe du Sud et le Benelux. On se connaît pas, je crois pas, je crois pas qu'on se soit croisés avant. Mais par contre je trouvais ça hyper intéressant de discuter de Pinterest parce que c'est un outil, une plateforme digitale qui est très utilisée. On va reparler des chiffres, mais qui est assez méconnu, en particulier quand il s'agit de marketing. Donc je voulais d'abord que tu expliques, parce qu'on aime bien en France mettre les choses dans des cases, je voulais que d'abord que tu différencies, parce que Pinterest est arrivé en même temps que la grosse tendance, que Facebook, Instagram, etc. etc. C'est quoi la... Est-ce que Pinterest, c'est un réseau social?
Merci déjà de me recevoir, c'est un plaisir d'être ici. Alors non, Pinterest n'est pas un réseau social. En fait, Pinterest est un moteur de découverte visuelle qui permet d'inspirer en fait ses utilisateurs au quotidien avec des projets plus ou moins long terme dans différentes catégories. Ça peut aller de je cherche une recette en fait à cuisiner pour ce soir ou un look pour une soirée ce week-end ou pour un voyage à faire l'année prochaine. Et en fait, il y a au moins trois différences majeures avec un réseau social. D'abord, on ne vient pas sur Pinterest pour connecter avec des amis, mais on y va fondamentalement pour rechercher des inspirations par rapport à des projets qui soient très personnels, comme ceux que j'ai évoqués. Deuxièmement, c'est pas une plateforme de user-generated content. En fait, plus de 75% du contenu sur la plateforme est du contenu de créateurs de contenu professionnels. Et par là, on entend marques, influenceurs, blogueurs et éditeurs. Et puis, troisième élément de différenciation majeure, c'est que les gens viennent sur Pinterest avec un projet à venir, avec une intention très forte. Et donc, ils créent des tableaux, ils enregistrent du contenu qui peut avoir trait effectivement à la cuisine, à la mode, à la beauté, au voyage ou autre. Et donc, sont en recherche effectivement de ce contenu de créateurs professionnels pour pouvoir réaliser ces projets au quotidien.
Mais en fait, du coup, enfin, moi, j'ai la sensation que quand on va sur quand on s'intéresse au profil des personnes qui utilisent ces plateformes, finalement, sur Pinterest, on est quasiment plus proche de la réalité, parce que finalement, tu le fais comme tu le fais pour toi, c'est une projection de ta réalité, versus quand tu vas sur Instagram ou Facebook ou autre, c'est une projection que tu fais pour les autres. Donc nécessairement, c'est moins réel, on va dire.
Bah effectivement, tu n'es pas dans une projection sociale. Pour prendre un projet de déco, par exemple, si je veux réaménager mon salon, je vais créer un tableau ou des sous-tableaux, par exemple, avec... je vais chercher du contenu qui va avoir trait au parquet, au mobilier, au poignet de porte, je ne sais quoi. Ce contenu-là n'a pas vocation à être disséminé, en fait, à mon groupe d'amis. Donc c'est vraiment pour moi. C'est pour apporter de la valeur ajoutée dans mon projet au quotidien. D'ailleurs, lorsqu'on... donc nos utilisateurs, ils mentionnent c'est vraiment pour vous et pas pour vos selfies. Donc vraiment un usage très différent des réseaux sociaux.
Et du coup, en termes de chiffres, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de chiffres sur Pinterest, ou en tout cas on n'en a pas nécessairement beaucoup en tête. Aujourd'hui, c'est quoi Pinterest?
Alors au niveau mondial, nous recensons plus de 200 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme, en très forte croissance, avec vraiment une croissance très rapide à l'international. Sur la France, nous communiquons pas nos chiffres, mais si tu consultes une source publique comme Comscore reporte plus de 9 millions d'utilisateurs actifs en France sur
Pinterest. D'accord. Et s'ils ont un usage, parce qu'avoir des profils c'est une chose, mais est-ce qu'ils sont actifs?
Enfin, ils sont actifs.
Voilà. Donc il y a beaucoup d'épingles, etc.
Et exactement, en fait, c'est une population qui est particulièrement engagée, parce qu'on recense plus de 2,7 millions en fait d'épingles sauvegardées par jour en France.
Ouais, donc c'est énorme. Et alors du coup, c'est quoi les secteurs où ça marche le mieux, ce que les gens épinglent le plus? C'est plus pour comprendre un peu l'usage, parce
bien
que finalement.
Bien sûr. Alors la première catégorie, en fait, en termes de contenu disponible et de recherche d'utilisateur, c'est tout ce qui touche à la cuisine et à la boisson. On recense plus de 19 milliards d'épingles, d'idées, de possibilités, en fait, qui ont trait à la cuisine sur la plateforme. C'est assez cohérent lorsqu'on pense qu'on se nourrit quand même 3 fois par jour et qu'on a besoin de diversité. Ensuite vient la mode, avec plus de 16 milliards d'épingles disponibles sur la plateforme. Ensuite, la décoration, qui peut convenir aussi bien aux aménagements du quotidien que pour du gros œuvre. Donc on a 15 milliards d'idées sur la plateforme. Puis ensuite vient la beauté, avec plus de 7 milliards d'épingles sur la plateforme. Ensuite le voyage, et puis on a une longue taille de catégories dont certaines sont vraiment propres à la France d'ailleurs, l'art par exemple, l'éducation, et puis on a des moments de vie, typiquement le mariage, l'arrivée d'un enfant, sont des projets d'importance dans la vie des individus, pour lesquels ils se tournent vers Pinterest en fait pour construire des aménagements, des univers complexes par rapport à ces moments de vie.
D'accord. Et alors du coup, j'imagine que les grands profils dont tu as parlé, c'est les mêmes tendances sur la France. Tu as parlé des spécificités, mais...
Alors, les grandes catégories sont communes à tout l'ensemble des pays.
C'est commun.
Effectivement,
d'accord.
C'est universel.
Et alors, vous faites... Enfin, moi, j'ai la sensation que Pinterest, c'est la plateforme... On a envie de dire réseau social, mais la plateforme qui est la plus proche du commerce, finalement, parce que tu es à 2 clics de chaque site sur lesquels les images sont épinglées, à moins de réépingler des images qui sont déjà évidemment sur Pinterest. Il y a beaucoup d'innovations qui sont faites chez Pinterest, je pense qu'on en entend un peu moins parler. Il y a effectivement cette recherche d'images que vous avez travaillé à travers l'intelligence artificielle et du machine learning. Il y a surtout ça auquel je pense. Vous avez cette application de shopping qui s'est développée. Tu peux en parler un tout petit peu?
Oui, alors notre préoccupation première, je dirais, c'est d'offrir une expérience de découverte qui soit plus visuelle, plus personnalisée, plus locale, sans friction. Donc on travaille énormément, effectivement, comme tu le disais, pour te permettre d'arriver sur la plateforme avec une question un peu ouverte. Comment réaménager mon salon, quel look, quel style en fait de vêtements pour une soirée. Et ensuite, soit dans l'application, grâce à l'application de recherche visuelle, de pouvoir affiner ce chemin en allant d'une scène, par exemple, de décoration vers un objet progressivement, ou que ce soit en dehors de l'application grâce à Lens, te permettre effectivement de capturer une inspiration et d'affiner cette recherche, de voir l'algorithme te recommander des alternatives par rapport à des objets que tu auras sélectionnés, pour ensuite t'amener à réaliser cette inspiration.
Attends, je pense qu'il faut préciser sur Lens. En fait, l'idée, c'est, enfin, que tu m'expliquais, hein, donc je peux le réexpliquer, mais c'est tu prends une photo avec ton téléphone,
ouais,
et ça va te proposer des produits qui correspondent. Donc tu vois un truc dans la rue ou dans une boutique et ça va te proposer des produits qui sont cohérents, par rapport à cette recherche.
Tout à fait. C'est un appareil photo intégré. Donc si tu vois la search bar, en fait, en haut de l'application, à droite, il y a une petite icône avec un appareil photo. En cliquant dessus, tu as la possibilité de prendre des photos dans ton environnement immédiat. Je sais pas, tu vois quelqu'un qui se promène avec une veste sympa, tu as envie d'en prendre une photo, et là l'algorithme va te recommander effectivement des épingles qui vont être des variantes de cette veste sur lesquelles tu pourras prendre des choses ou que tu pourras acheter éventuellement.
Et sur la partie shopping, parce que vous avez lancé un peu en même temps que Instagram, si je me trompe pas.
On a lancé avant Instagram une fonctionnalité en fait qui s'appelle Shop the Look,
ouais,
qui permet effectivement aux utilisateurs de pouvoir acheter des produits à partir d'une épingle. Donc nous avons lancé avec des partenaires comme Glamour, Zalando, Maison du Monde dans la partie déco. Et effectivement, c'est toujours une emphase sur la découverte d'épingles, mais tu as des capteurs sur des objets dans ces scènes. Donc ça peut être sur des chaussures, sur un pantalon, sur une veste, dans une épingle mode, ou ça peut être sur un canapé, sur des tables basses ou autres, dans une épingle déco. En tapant sur ces pointeurs, tu es redirigé vers des produits. Et là, tu peux avoir une recommandation de l'algorithme vers des produits similaires ou des variantes, donc toujours dans cette logique de découverte visuelle. Et en un deuxième clic, tu es reporté vers le site du e-commerçant où tu peux effectuer cet achat.
Et alors du coup, parce que c'est... Avant qu'on parle des marques, parce qu'il y a évidemment un énorme sujet sur les marques et ce qu'elles peuvent en faire de Pinterest, il y a quand même un sujet, parce qu'en ce moment, c'est un peu
c'est un peu, c'est pas que c'est tendance, mais c'est forcément une occupation du moment, les data. Enfin, la donnée consommateur, que ce soit avec l'arrivée de la GRP en Europe, mais aussi, de manière générale, ce qui s'est passé sur Facebook et, voilà. C'est quoi votre politique par rapport à la donnée chez Pinterest?
Alors, elle est très stricte. Nous sommes compliant, je dirais, ou en conformité avec toutes les lois. Et effectivement, les standards européens qui sont en train d'être établis vont devenir nos standards les plus rigoureux au niveau mondial.
D'accord. Et cela dit, vous n'avez pas les mêmes informations que d'autres plateformes, en fait, d'une certaine mesure. Vous n'avez pas de messages privés, vous n'avez pas ce genre d'informations.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'on demande à un utilisateur lorsqu'il ou elle crée un compte, c'est d'une part, effectivement, est-ce que c'est un homme ou une femme, est-ce que c'est un âge, et puis on sonde cette personne sur ses centres d'intérêt. Donc on lui demande 5 centres d'intérêt au moment de la création du compte, ce qui va nous permettre de peupler un premier fil d'inspiration ou d'idées. Ensuite, ce sont vraiment les actions de cet utilisateur sur la plateforme, quel tableau je crée, comment je les nomme, quel contenu j'enregistre, qui va nous permettre d'optimiser en fait en temps réel pour offrir la meilleure expérience de découverte par rapport à toute requête.
Et j'étais surpris aussi que du coup vous n'avez pas vraiment, en France en tout cas, vous avez bien sûr des partenariats avec des marques, on va en parler, mais vous n'avez pas non plus de... Enfin, pour l'instant, vous faites grossir la plateforme, vous n'avez pas forcément, c'est pas que vous n'avez pas de business model, mais en tout cas, il n'y a pas d'action. Vous ne vendez pas, par exemple, et c'est l'action que je t'ai posée en préparant, mais de dire, bah, par exemple, on sait que quelqu'un va acheter une maison, vous pourriez vendre cette data aux banques ou aux assurances, et ce n'est pas quelque chose que vous faites.
On pourrait, mais on ne le fera pas.
C'est ça.
On a un modèle qui est publicitaire. Dans les pays anglophones, où effectivement la publicité est disponible, nous n'avons pas de monétisation en France encore, ou sur les autres pays de la région. Et donc, nous travaillons sur la croissance de l'audience et s'assurer qu'on offre une expérience qui soit optimale à chaque utilisateur.
Ok. Et alors, du coup, comment les marques peuvent l'utiliser? Non, parce qu'en fait, c'est quand même une des questions, je pense, que tu dois retrouver de manière assez régulière avec les marques. Autant que sur les autres plateformes, c'est assez clair. C'est très publicitaire, mais c'est assez clair. Pinterest, je pense qu'il y a, et pour en avoir parlé avec certains marketeurs, c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de point d'interrogation, c'est que les gens utilisent la plateforme souvent pour leurs besoins propres, on en a parlé, mais ils ne savent pas trop ce qu'une marque peut en faire finalement.
Oui. Alors, il y a déjà différents objectifs qui peuvent être poursuivis grâce à Pinterest. Aussi bien les objectifs de notoriété, pour être visible vis-à-vis des plus de 200 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme, qui sont en quête d'inspiration et de contenu professionnel, mais également de l'engagement ou voire de l'apport de trafic vers son site de e-commerce, son site de marque ou son blog. Ensuite, on recommande 3 piliers à une stratégie sur Pinterest. Le premier, c'est effectivement d'établir sa présence par le biais d'un profil. Et donc, sur le profil, je définis visuellement et en copie, en texte, en fait, qui je suis comme, en tant que marque. Et je peux créer effectivement des tableaux qui sont en ligne avec ma stratégie marketing. Particularité intéressante, je peux créer des tableaux collaboratifs. Donc, on voit beaucoup de marques qui sont intéressées par des collaborations avec des influenceurs qui peuvent humaniser un propos ou une ligne éditoriale.
T'as un exemple?
Alors, on a vu ça avec Picard, par exemple, qui a travaillé autour d'une campagne de Noël avec des influenceurs qui ont permis d'apporter un apport qualitatif et un apport d'environnement éditorial, en fait, aux recettes à proprement parler de Picard. On le voit avec Maison du Monde, avec laquelle nous avons travaillé sur une campagne en septembre dernier. Donc, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire. Et là, je dirais, ce qui est clé, c'est effectivement comment on rédige, comment on présente ses épingles, ses inspirations. Parce qu'une épingle, qui est l'unité de communication sur Pinterest, c'est une photo et puis un petit peu de texte, de données, qui peut être un descriptif court ou un prix sur un produit. Et là, il y a vraiment une logique de SEO qui fonctionne. Donc, si tu regardes sous la search bar, par exemple, tu verras des catégories, en fait, de termes, des sous-catégories, qui sont les termes les plus populaires ou les plus recherchés. Reprendre ces termes dans la description d'une épingle, par exemple, permet de mieux remonter dans des résultats de recherche. Donc le profil, c'est d'une part se présenter, puis c'est aussi une capacité à être quelque part repris dans les univers de découverte et donc toucher une audience qualifiée. Le deuxième pilier de la stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie de domaine. Donc lorsqu'on a un site ou un blog, comment est-ce que je permets à un visiteur de ce site ou de ce blog d'être inspiré, mais également d'enregistrer ce contenu dans leur tableau Pinterest? Donc, soit on a l'extension Chrome, effectivement, ce qui permet à n'importe quel utilisateur d'aller sur un site et de pouvoir sauvegarder du contenu. Mais si les utilisateurs n'ont pas l'extension Chrome, à ce moment-là, c'est mettre la petite ligne de code qui permet d'installer le bouton Pinterest enregistré. Ça peut être les boutons follow en header ou footer, ou ça peut être installer, par exemple, une widget qui permet sur son site d'avoir un encart Pinterest et de faire remonter ou de donner de la visibilité au contenu le plus populaire sur Pinterest qu'on aura publié sur son profil ou au dernier contenu qu'on aura publié. Donc là, c'est important effectivement pour non seulement pouvoir présenter ses produits, mais pour permettre aux gens d'enregistrer son contenu sur Pinterest. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Puis le troisième, c'est la promotion, la communication. Comment est-ce qu'on intègre Pinterest dans sa stratégie de communication au sens large, comme on peut le présenter pour d'autres plateformes qui sont stratégiques.
Et alors moi, j'avais l'impression aussi que ça pouvait être une forme d'inspiration. C'est-à-dire, j'ai la sensation que... On dit souvent, par exemple, enfin, c'est une phrase bête, mais que les créateurs, à chaque fois qu'on leur demande où est-ce qu'ils se sont inspirés, ils disent ouais, « je m'inspire de la rue ». Mais finalement, aujourd'hui, la rue, de manière digitale, elle se retrouve sur Pinterest.
Pinterest, c'est une plateforme de choix, effectivement, pour la communauté créative. Donc, on a un usage B2C, je dirais, qui est très prononcé, mais également en B2B. Donc, couramment, on entend que les personnes dans les cabinets d'architecture, les cabinets de tendance, même dans la publicité, en fait, une forme d'établir un brief peut se passer grâce à cette plateforme, une plateforme collaborative. Donc, c'est effectivement un endroit où on trouve des inspirations du web entier, puisqu'en fait, comme je le mentionnais, on ne sauvegarde pas que du contenu, en fait, de la plateforme Pinterest, mais également dehors de la plateforme, pour s'inspirer et pour réaliser ses inspirations dans son quotidien.
Et tu as d'autres conseils ou tricks sur la plateforme pour bien l'utiliser, que ce soit pour les utilisateurs, les lambda ou pour les marques?
Écoute, sur le profil, il est bon d'avoir un rythme assez régulier, en fait, de création d'épingles, de création de tableaux, parce que ça permet effectivement d'être interprété par l'algorithme comme étant un créateur de contenu dans la durée, qui peut inspirer ses utilisateurs au quotidien. Du coup, effectivement, d'avoir une meilleure performance. Je dirais installer les quelques boutons enregistrés ou widgets, d'ailleurs dont tous les conseils sont sur notre site développeur et business marketing. Et puis je dirais effectivement intégrer Pinterest dans sa communication.
D'accord. Et alors, juste parce que j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais tu présentes Pinterest comme un moteur de recherche d'images. En quoi c'est le futur, pourquoi vous pensez que c'est le futur, un moteur de recherche d'images, pardon?
Nous, on veut effectivement dessiner le futur du search. On pense qu'on construit le premier moteur de découverte visuelle, parce que finalement, le search, comme on l'a connu jusqu'à présent, a ses limites. Moi, il m'arrive souvent de vouloir quelque chose et de ne pas savoir le décrire, de pas trouver les mots pour le décrire. Et on dit que parfois, on ne sait pas ce qu'on veut jusqu'à ce qu'on le voit. Du coup, notre technologie de découverte visuelle, c'est en fait une combinaison de curation manuelle pour définir ce qu'est le goût pour un utilisateur en France, ou même en France à Paris par rapport à Marseille, de vision par ordinateur pour pouvoir détecter des objets et pouvoir faire des associations avec entre différents objets, et de computation de données sur des échelles colossales, puisqu'on a plus de 200 millions d'utilisateurs. Et donc, c'est vraiment pour nous la possibilité d'offrir une expérience de recherche qui soit plus intuitive, qui se passe de mots, où sur une scène, on peut choisir une partie de cette scène pour se concentrer sur un siège, une lampe ou autre chose, et pouvoir ainsi de suite, grâce à l'accompagnement de l'algorithme, grâce aux variantes qui sont proposées, découvrir des objets, des ambiances, des atmosphères qui nous séduisent et qu'on souhaite soit enregistrer dans un tableau pour plus tard ou alors réaliser sur le moment.
Cool. Et alors ce podcast, il s'appelle Jean. Donc à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui?
Alors moi je dirais Vlan aux indicateurs comme les fans, les followers qui ont trop longtemps été considérés comme des indicateurs
premiers de performance. On peut avoir des followers d'ailleurs sur Pinterest.
On peut avoir de followers et c'est une bonne chose, mais je ne pense pas qu'ils doivent être des indicateurs de performance premiers. Je suis beaucoup plus intéressé par des indicateurs comme la portée, comme le reach, qui sont des indicateurs de performance effective.
D'accord. Cool, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.